Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'UM. Et aujourd'hui, je vous propose question pour une championne. Je suis un concours né en 2008 à Queensland en Australie.
Un concours de kangourous.
Non, c'est pas ça. Je reprends. En 2012, mon concept est repris au Canada avant d'être...
Un concours de... Les frites avec le fromage dessus, là. Un concours de poutine.
Non, c'est quoi ça? Non, toujours pas. Avant d'être repris en 2013 par l'université de Lorraine.
Un concours de quiche?
Non, pas la quiche Lorraine. En 2014, le concours se décline en France et prend une dimension internationale lors d'une grande finale francophone rassemblant le Canada, la Belgique, la France et le Maroc. En 2015, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie et le Cameroun rejoignent le concours. Puis en 2016, le Bénin, l'Indonésie et la Suisse. Un concours international de vulgarisation scientifique ouvert aux doctorants francophones du monde entier. L'exercice que je propose aux candidats consiste à présenter ses travaux en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié, sous la forme d'un exposé clair, concis et néanmoins convaincant, avec l'appui d'une seule diapositive.
Un concours de diapos.
Souvent abordé sous l'angle de l'humour et utilisant des références à la culture populaire et des métaphores variées, je prépare les futurs chercheurs à la prise de parole grâce à l'entraînement d'un coach mis à disposition des candidats par les collèges doctoraux, organisateurs des finales régionales. Je tire mon nom de la durée imposée à chaque candidat pour résumer sa thèse en 180 secondes. Je suis ma thèse en 180 secondes. Oui, et vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui les candidats de l'Université de Montpellier, lauréates parce qu'il n'y a que des filles, oui, lauréates de la finale régionale de ce concours qui s'est Tony anime le 17 mars dernier. Julie Bas, bonjour. Vous êtes doctorante à l'IGF, l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier, et vous avez donc décroché le second prix du jury, le deuxième prix du jury d'ailleurs, pardon. C'est bien ça ?
Eh oui.
Je vois la consternation sur notre lancement. Julie Caillé, bonjour. Vous êtes doctorante au LIRM, le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Vous êtes arrivée au troisième prix du jury. Donc bonjour.
Bonjour.
Enfin, Pauline Bron, vous êtes doctorante à l'ICGM, l'Institut Charles Guérard de Montpellier, et vous avez quant à vous décroché le prix du public qui vous a donné accès à la demi-finale nationale organisée à Paris le 28 mars dernier. Vous nous en direz un mot.
Bonjour.
Bonjour. Pour commencer, félicitations à toutes les trois.
Merci.
Alors vous me direz, le premier prix du jury dans tout ça, je n'en ai pas parlé. Il a été décerné à Flo Sorde, doctorante à l'université de Nîmes, que nous félicitons bien sûr et que nous saluons. Donc c'est avec vous trois que nous allons passer les 30 prochaines minutes. En attendant, mes 3 minutes à moi, elles sont largement dépassées. Donc j'en profite, je te présente rapidement avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview et les 180 prochaines. Aline Perriot.
Bonjour.
Oui, t'es surprise pour une fois, c'est gentil.
Tout à fait.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors, pour commencer, je vous propose un petit tour de table. Donc, j'ai juste cité les laboratoires dans lesquels vous travaillez, mais peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot en moins de 3 minutes sur vos travaux respectifs. On va commencer par vous, Pauline. Alors, sur quoi vous travaillez ?
Alors. Pour ma part, c'est un peu particulier parce que je suis en co-tutelle entre l'Espagne et la France. Donc c'est un projet européen. Donc je suis en Espagne à San Sebastián et en France à Montpellier, donc dans le laboratoire ICGM à Montpellier, dans le département D2. Donc on étudie les polymères et on essaie d'apporter des alternatives au pétrole, essayer de ramener un peu la chimie verte sur les plastiques. C'est un peu ça la thématique du laboratoire.
Alors, Julie Bas, à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre domaine de recherche ?
Oui, oui, oui. Alors moi, je travaille à l'IGF de Montpellier et mon équipe s'intéresse à la physiologie des organes digestifs, en particulier à l'intestin et à l'estomac, en essayant de comprendre comment ça fonctionne dans un contexte normal, quand tout va bien, et en faisant le parallèle avec des contextes où on a des infections ou des maladies comme le cancer ou des infections bactériennes, virales, et comprendre comment ça fonctionne à l'état de base pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème.
Merci. Et donc Julie Caillé, vous êtes au LIRM.
Oui, je suis au LIRM, donc dans le département informatique, plus exactement l'équipe Marel, équipe dans laquelle on travaille sur le logiciel. Et moi, plus précisément, je suis sur des méthodes formelles. Je m'assure que les logiciels, ils n'ont pas de bugs.
Merci à toutes les trois.
Alors, pardon, la thèse, on le sait, c'est un travail à 300%, plus qu'à temps plein. Qu'est-ce qui vous a motivé, à côté de ça, à participer à ce concours, ma thèse en 180 secondes, Pauline, par exemple?
Ouh là là, très bonne question. Ça serait... déjà, c'est un concours qui est connu. Très connu en France et même à l'international. Et je me suis dit, pourquoi pas ? J'en avais déjà entendu parler dans le passé et je me suis dit, pourquoi pas essayer ? J'ai un sujet assez actuel qui se porte sur les plastiques et pourquoi pas essayer de vulgariser mon sujet ? Ce nouveau terme de plastique qui sont les vitrinaires, essayer d'expliquer au public ce que c'est. Et puis, premièrement, et ça a été aussi ma première motivation, c'est expliquer mon sujet de thèse à ma famille.
Très bien, bonne idée. Vous, Julie, Julie Bas, pardon, on a deux Julie. Qu'est-ce que ça a été pour vous la motivation pour vous inscrire à MT180?
Moi, j'ai entendu parler de ce concours depuis quelques années. En fait, j'ai une amie qui a participé à ce concours il y a quelques années, qui m'a grandement encouragée à le faire. Et puis, j'avais super envie de partager mon sujet de thèse, évidemment. Et puis, comme Pauline, une envie un petit peu que mes proches comprennent un peu mieux ce que je fais, puisque c'est vrai que quand on nous pose la question, si on n'y réfléchit pas, on se retrouve bloqué, on ne sait pas quoi répondre. Et maintenant, c'est un peu plus facile, du coup.
Et enfin, Julie Caillé, vous, qu'est-ce que ça a été votre motivation pour vous inscrire à ce concours ?
Principalement, mon collègue de bureau, Thomas, qui a participé aussi à l'édition avec nous, qui lui était vachement motivé pour faire ça. Et la motivation étant contagieuse, il m'a contaminée. Et puis aussi, le fait qu'au labo, on fait pas mal aussi déjà un peu de vulgarisation, que je l'avais déjà pas mal fait, que j'avais trouvé une façon un peu amusante de le faire et que je me suis dit que si ça marchait sur les enfants, ça marchait peut-être sur les grands aussi, donc autant essayer.
Bien vu. Alors j'ai cité en introduction le collège doctoral, donc comme organisateur de l'événement. Le collège doctoral, c'est l'instance qui regroupe les écoles doctorales. Je pense que le grand public ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pourriez, l'une de vous, en deux mots, nous dire à quoi ça sert une école doctorale quand on est doctorant ? Qui accepte de répondre à cette question ? Julie Caillé ?
Alors je me permets parce que je représente mon laboratoire au sein du conseil de l'école doctorale. Et l'école doctorale, c'est un peu le troisième composant de la thèse. En fait, il y a l'étudiant, il y a toute la direction, les encadrants de la thèse, et il y a aussi le collège doctoral. Donc, quand tout va bien, en général, on le voit pas trop, entre guillemets, parce que tout va bien, tant mieux, c'est le but. Mais il intervient quand ça va. Si jamais il y a des soucis, c'est un peu le médiateur. Et il est aussi présent pour tout ce qui est formation, dont ma thèse en 180 secondes, pour nous former. Parce qu'en thèse, on est aussi étudiant, on est là pour apprendre aussi. Et donc, il nous propose des formations diverses et variées, dont la vulgarisation.
Alors, pour préparer ce concours, vous avez des coachs qui sont là pour vous aider. Et est-ce que vous pouvez nous raconter, je vous pose la question par exemple à vous, Pauline, on l'écoutera tout à l'heure, votre présentation, elle est très écrite. Il y a des rimes, il y a des personnages. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait pour vous préparer et comment on vous a accompagné justement pour écrire ces textes ?
Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'avant de passer la finale régionale, il y a une audition. Donc, un texte de 3 minutes doit être préparé à l'avance par chaque candidat de à peu près 3 minutes. Donc là, ça a été la première partie de la construction de mon texte. Donc l'idée générale du texte, c'est là, c'est à ce moment-là. Donc on arrive avec un texte déjà préparé qu'on va travailler après avec les formateurs. Mais au début, j'avais une idée, donc on va voir sur mon passage, mais comment expliquer les vies trimères. Il y a une idée de danse derrière, d'échange, de mouvement. Donc j'étais partie là-dessus. Au début, mon texte que j'ai présenté à l'audition n'a rien à voir avec ce qu'on a présenté au niveau...
Il n'y a pas de Patrick le plastique.
Il y était, il y était, mais le texte n'était pas du tout construit de la même manière.
Je vois que vous acquiescez, Julie Caillé aussi. Pour vous aussi, le fait de travailler avec des coachs, ça a fait évoluer votre présentation ?
Oui, beaucoup. Et ce qui m'amuse, c'est qu'on était toutes les trois en fait, dans la même audition de départ. On était on a eu 4 groupes de 10 initialement et on était dans la même. Donc on a vraiment pu chacune voir le départ, l'arrivée. Et on a pu voir la progression. Donc oui, le texte a vraiment pas mal changé. Ça, certains plus que d'autres, mais il y en a vraiment, on les a redécouverts.
Alors Julie Bas, dans quelques toutes petites secondes, on va écouter votre présentation. Donc vous travaillez sur le cancer de l'estomac et sur le rôle des cellules TUFT. On dit comme
parfait.
Ça, chouette. Sur le rôle des cellules TUFT dans le cancer gastrique induit par Helicobacter. Qu'est-ce qui vous a mené à ce sujet en quelques mots ?
Ça faisait longtemps que je voulais travailler dans le domaine de la cancérologie, mais quand je dis cancérologie, c'est côté recherche, puisque en réalité, mon travail n'a pas grand-chose à voir avec la partie médecine, clinique, etc. Même si j'espère qu'un jour, mon travail pourra contribuer peut-être au développement d'un traitement. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. La thématique du cancer m'intéressait vraiment et particulièrement comprendre au niveau de la cellule ce qui se passe, en fait, les mécanismes.
Alors, on vous écoute.
Nous, ce soir, certains sont infectés par une bactérie, Helicobacter. Alors non, ce n'est pas une bactérie qui fait de l'hélicoptère, mais plutôt le genre qui donne le cancer. Plus précisément, le cancer de l'estomac. 800 000 morts chaque année. Alors, dans le cas où la bactérie aurait décidé de rentrer en guerre contre nous, suivez-moi, je vais vous transporter au cœur de la bataille, dans notre estomac. La ligne de front, c'est notre muqueuse gastrique, une muraille de cellules qui empêche les bactéries d'envahir notre corps. Et juste derrière cette muraille, on a une seconde ligne de défense, notre système immunitaire, une armée de cellules prêtes à croiser le fer. Mais pour que le système immunitaire sache que la sournoise Helicobacter approche de l'autre côté de la muraille, il lui faut un signal d'alarme. Justement, nos cellules TUFT sont là. Imaginez-les comme des sentinelles postées sur la muraille, en haut des tours de guet, scrutant l'horizon et sonnant l'alarme au moindre signe de l'ennemi. Ce signal est essentiel pour notre système immunitaire car il lui permet de déclencher la réaction de défense de notre organisme, l'inflammation. Mais attention, car parfois une inflammation trop forte ou mal contrôlée peut grandement endommager le champ de bataille. Des trous, des bosses, des ulcères, des cancers. Ce champ de bataille, c'est le terrain que je scrute pour comprendre dans ma thèse comment, parfois, les actions de nos cellules qui font face à Helicobacter peuvent conduire au développement du cancer de l'estomac. Pour cela, je peux compter sur mes précieuses alliées, mes souris de laboratoire. Grâce à elles, je peux reproduire les mêmes batailles et espionner tout ce qu'il se passe durant le combat en regardant sous mon microscope. Ainsi, j'ai pu observer que lorsque le système immunitaire reçoit le signal des sentinelles, il va balancer tout son attirail contre Helicobacter. Lymphocytes, phagocytes, cytokines, missiles, grenades et dynamite ! Mais tout ça sans réfléchir aux conséquences, car c'est un peu trop violent pour notre estomac. En revanche, lorsque les sentinelles sont absentes de leur poste d'observation, le système immunitaire ne s'enflamme pas et donc le cancer n'apparaît pas. Résultat, j'ai révélé la stratégie d'Helicobacter qui se sert de nos sentinelles pour manipuler le système immunitaire et faire un cancer. Mon travail pourra alors contribuer au développement d'un traitement dont le mode d'action serait de bloquer cette stratégie pour vaincre le cancer de l'estomac. Et quand Helicobacter ne pourra plus nous tuer du cancer, eh bien, elle pourra toujours se satisfaire, qui sait, en allant faire un tour d'hélicoptère.
Alors, félicitations déjà, Julie.
Merci.
Et donc, on l'a entendu, le cœur de votre sujet, c'est cette fameuse bactérie, Helicobacter. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de plus sur son implication dans la survenue du cancer de l'estomac ?
Oui. Le cancer de l'estomac, c'est la troisième cause de mortalité par cancer dans le monde. Et 90% de ces cas de cancer est attribué à cette bactérie, Helicobacter. Heureusement, la plupart du temps, l'infection, elle est asymptomatique. À peu près dans 1% des cas, on va aller vers un processus qui va conduire au développement du cancer.
Et est-ce qu'on sait pourquoi, dans certaines situations, ça conduit à un cancer et dans la plupart des cas, il n'y a pas de cancer à l'arrivée ?
Alors non, on ne sait pas. On parle de maladies multifactorielles. Donc, il y a des facteurs génétiques et environnementaux qui entrent en jeu.
On vous voyait pendant toute la présentation vous remettre dans le personnage.
Oui.
Donc vous la connaissez par cœur. Mais j'imagine que, on l'a dit, MT-180, ça joue un peu sur l'humour. Parler du cancer sur cette tonalité-là, est-ce qu'on prend des pincettes supplémentaires ou est-ce que finalement le coach, il vous dit non, vous le traitez comme n'importe quel sujet et on y va, quoi.
Ah non, sur le cancer, on m'a pas dit spécialement qu'il fallait faire attention. Après, moi, ma présentation, elle est... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'humour par rapport aux autres présentations.
Il y a du rythme.
Je suis partie sur une thématique de guerre, d'affrontement entre le cancer et le système immunitaire. Et voilà.
Alors, dans le sujet, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, dans votre sujet de thèse, l'intitulé, il y a aussi « Nouvelles pistes thérapeutiques ». Vous avez dit, bon, ce n'est pas forcément pour tout de suite, mais est-ce que vous avez espoir qu'à terme, et à quel terme, votre thèse, elle pourrait contribuer à développer des nouveaux traitements contre ce cancer ?
Oui, bien sûr. Peut-être de futurs doctorants, dans quelques années, pourront retomber sur mon travail, et puis ça leur donnera une inspiration pour continuer et un jour développer un traitement.
Alors Julie Caillé, alors vous avez développé un logiciel, hein. Votre logiciel il s'appelle Goéland. J'ai envie de vous demander pourquoi Goéland, c'était pas prévu dans les questions, mais pourquoi ?
Parce que le langage utilisé pour le faire c'est le Go, et qu'au début il était pas très efficace, donc il est Go.
Goéland,
ok. Goéland.
Alors quel a été votre parcours avant de vous lancer dans cette aventure-là ?
Alors faut savoir que moi j'ai découvert la logique en cours de philosophie en terminale, et que ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc j'ai continué en informatique, donc licence, master, classique, et arrivé à la fin de mon master, on m'a dit qu'il y avait justement une thèse possible qui utilisait pas mal la logique, donc j'ai sauté dessus, et me voici maintenant.
Super, on vous écoute maintenant.
Vous êtes condamné à mort. Face à vous, deux portes. Derrière l'une d'entre elles se cache un tigre affamé et une mort certaine. Derrière l'autre, la liberté et peut-être le droit à une retraite bien méritée. Afin de vous aider, des inscriptions sont gravées sur chaque porte. Sur la première, on peut lire « Il y a un tigre derrière une porte ». Sur la seconde, « Il y a un tigre derrière l'autre porte ». Dernière indication, l'une de ces inscriptions est fausse. Bonne chance. Actuellement, ce que vous faites, si vous cherchez à vous échapper et que vous ne misez pas tout sur la chance, ça s'appelle un raisonnement logique. On s'en sert inconsciemment tous les jours quand on argumente ou qu'on déduit des choses. La logique, c'est fantastique. Ça peut vous aider à choisir la bonne porte et au quotidien, ça nous aide à éviter les bugs. Vous savez, les bugs, ces moments un peu gênants, quand TikTok se ferme sans prévenir, ou que les moteurs de votre avion redémarrent en plein vol. Moi, ça m'embête, alors j'ai décidé d'utiliser le raisonnement logique pour détecter les bugs avant qu'ils ne se produisent. Reprenons votre avion. À sa conception, les ingénieurs font des plans super détaillés. Ils assemblent les pièces, un peu de peinture, votre avion est prêt. Avant, vous laissez monter dedans, on le fait voler un peu, on regarde si tout se passe bien, sans passager, juste pour voir si tout fonctionne. Ensuite, vous montez à bord. Sauf que pas de chance. Sur votre avion, dès que quelqu'un tire la chasse, les moteurs s'éteignent. Super, on a trouvé un bug, mais c'est un peu tard. Pourtant, on aurait pu l'éviter. Le bug était dans les plans, depuis le départ. Mais personne ne l'a vu. Et personne n'a pensé à vérifier ce cas lors des essais. On ne peut pas penser à tout. Goéland, il peut. Goéland, c'est un logiciel auquel on fournit les plans de l'avion et qui va faire un raisonnement logique dessus pour simuler toutes les situations possibles et imaginables. Il n'en rate pas une. Et pour chacune de ces situations, il va regarder comment réagit l'avion. Et si après avoir tout essayé, il ne détecte aucun problème, vous pouvez embarquer sereinement. Il n'y a aucun bug. J'ai créé Goéland. Et mon objectif, c'est qu'il soit capable de vérifier les plans de votre avion, TikTok, mais aussi tous les logiciels et applications que vous utilisez au quotidien. Et qu'à force de raisonnement logique, on parvienne à un monde sans bug, et donc à un monde plus sûr. Et pour l'instant, je suis super fière de lui, parce qu'il a tout de suite trouvé que le tigre, il était derrière la deuxième porte.
Alors ce tigre, moi ça m'intrigue, il vient au début de votre présentation à la fin. Comment est-ce que vous avez eu cette idée-là pour illustrer le raisonnement logique du tigre derrière la porte ?
Alors c'était pas vraiment, enfin c'était une longue réflexion pour trouver comment illustrer ça de façon intéressante. Et en fait, dans mon domaine, il y a quelqu'un qui s'appelle Fitting, qui a fait des livres justement il y a très très longtemps sur ce sujet-là, dont un qui s'appelle Le Livre qui rend fou, avec ces énigmes-là à l'intérieur. Et donc je lui ai repris son énigme et je me suis dit que ce serait un bon moyen de motiver, enfin d'intéresser les gens.
Alors, le logiciel Goéland dont vous parlez, c'est bien, c'est très imagé. On a des tigres et des goélands, il y a tout pour me plaire. Donc, le logiciel Goéland dont vous parlez et que vous avez créé, quelles sont ses applications? Vous les détaillez un peu, mais est-ce qu'on peut revenir un peu dessus?
Oui, bien sûr. Alors, ce type de logiciel, en général, le but, c'est de prendre d'autres logiciels, enfin plutôt de prendre vraiment les spécifications des autres, d'autres logiciels et de faire tourner le cœur, enfin le raisonneur dessus, pour vérifier si vraiment il suit bien exactement tout ce qu'il est censé faire. En fait, on veut que chaque fonctionnalité fasse ce qu'elle est censée faire et uniquement ce qu'elle est censée faire, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ça demande un gros travail avec l'équipe qui l'a conçu pour savoir ce qu'il voulait faire de base. Et en travaillant comme ça, en traduisant toutes les spécificités en langage logique et à coup de raisonnement logique, justement, on arrive à voir si c'est bien carré, en fait.
Et vous êtes en quelle année de thèse ?
Troisième année,
donc ok, c'est pour bientôt alors, la soutenance, c'est ça ?
C'est ça, rendez-vous dans 6 mois.
Ok, et je vous ai pas demandé, Julie ?
Moi, pas avant 2 ans, je pense.
D'accord, ok. Et vous, alors on va passer à vous, Pauline, mais vous êtes en quelle année ?
En deuxième année.
Deuxième année.
Alors justement, Pauline, deuxième année, est-ce que vous pouvez nous dire à votre tour, comme on l'a fait tout à l'heure, quel parcours vous avez suivi avant de faire la connaissance de Patrick Leplastique ?
Alors, c'est un parcours un peu traditionnel. Bac scientifique, après je suis partie à la fac, licence chimie des matériaux, master chimie des matériaux aussi, et après j'ai continué avec la thèse.
Alors, on va vous écouter maintenant.
Oui.
Connaissez-vous mon ami Patrick le polyuréthane, alias Patrick le plastique ? Utilisez de façon systématique les plastiques polyuréthane, comme Patrick nous entoure pour des raisons pratiques et économiques. Savez-vous que nous les côtoyons tous les jours ? Vous les retrouvez notamment dans l'isolation de votre maison, dans le tableau de bord de votre voiture, dans vos vêtements et chaussures. Mais ces plastiques ne sont pas sympathiques, puisqu'ils sont fabriqués à partir de molécules toxiques et la plupart ne se recyclent pas et sont enfouis sous terre. Suite à une prise de conscience écologique, Patrick m'a donc proposé une mission, celle de créer une nouvelle génération de Patrick le plastique pour qu'elle soit fantastique, sans molécules toxiques et qui se recycle. Mission acceptée à bord de mon laboratoire, toute mon attention se porte sur les polyhydroxyuréthanes, qui sont comme les polyuréthanes, mais qui ont l'avantage d'être fabriqués sans molécules toxiques, avec la particularité de posséder des groupements alcool dans leur composition. Cette nouvelle présence n'est pas sans conséquence, puisque cela leur confère des propriétés de vie trimère, c'est-à-dire que ces plastiques peuvent être recyclés en étant chauffés sans que leurs propriétés initiales ne soient altérées. Mais comment est-ce possible, me direz-vous ? Immergeons-nous dans le plastique. Imaginons que les groupements alcool sont symbolisés par un verre de vin que les groupements chimiques tiennent à la main. La température, quant à elle, est représentée par de la musique. Lorsque la musique résonne et que le verre de vin fonctionne, les groupements chimiques dansent et se déplacent pour suivre la cadence. Et oui, c'est comme nous finalement. Un verre de vin et une bonne musique favorisent la danse. Mais attention, il est important que tous les groupements danseurs valsent à l'unisson pour que le plastique ne perde pas ses propriétés au fur et à mesure qu'il soit recyclé. C'est pourquoi ma mission est d'organiser la meilleure soirée avec la bonne ambiance pour que les groupements chimiques deviennent tous dynamiques. D'autant plus que j'introduis des catalyseurs pour motiver les groupements danseurs. Vous voyez donc que chaque détail a son importance pour favoriser la danse. Quel vin, quelle musique, quel catalyseur choisir ? Tant de possibilités que j'ai testées chaque journée. Aujourd'hui, ma mission avance pour favoriser la danse au sein du plastique et pour permettre à tous les futurs Patrick d'être fantastiques, sans molécules toxiques et qui soient au cycle.
Alors, bravo Pauline, je vous le disais tout à l'heure, cette présentation, elle rime, hein, on voit que c'est très écrit. Moi, j'ai une petite question sur ces travaux-là. Ce plastique fantastique, sans molécules toxiques et qui se recycle, est-ce que ça existe déjà, un tel matériau ?
Oula. Un plastique sans molécules toxiques, oui. Enfin, en fait, il y a plusieurs types de plastique. Il y a les thermodurcisseurs, thermoplastiques. Donc, les thermoplastiques, oui, on peut les recycler. En fait, mon travail, c'est d'étudier les vitrimères. Les vitrimères, c'est entre les thermodurcisseurs, qui sont des plastiques qui ont de super bonnes propriétés, mais qu'on ne peut pas recycler parce qu'en gros, ils sont trop durs, et entre les thermoplastiques qui ont des propriétés comme une bouteille d'eau, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser dans les constructions, par exemple, mais qu'on peut recycler à côté. Donc en fait, moi, mon objectif, c'est d'avoir de super bonnes propriétés et de pouvoir les recycler en même temps.
Alors, on comprend l'enjeu de santé publique et environnementale de vos travaux. Est-ce que justement, ça pourrait donner lieu à la création, enfin, j'imagine que c'est sur ce sur quoi vous travaillez, d'un nouveau matériau qui arriverait sur le marché ?
J'espère. J'espère. Pour le moment, cette notion de vie trimère, elle est toute nouvelle. Elle a été découverte, cette nouvelle classe a été découverte en 2011. C'est assez récent, donc pour l'instant, c'est vraiment apporter le plus de connaissances possible sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très prometteur pour le futur, et j'espère un jour qu'on trouvera des molécules qui pourront remplacer celles qui sont toxiques ou celles qui sont pétro-sourcées, par exemple.
Alors, vous avez participé avec Flo Sord, la gagnante dont on a parlé tout à l'heure, à la demi-finale nationale à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience rapidement ?
Oui, c'était impressionnant. Donc 54 candidats venus de toute la France se réunissent en demi-finale. Donc 54 candidats qui ont été élus dans chaque région. Donc c'est un peu entre le prix du public et le prix du jury. Ce sont les meilleurs qui viennent s'affronter en demi-finale. Donc c'était très intense, très stressant, puisqu'on écoute le discours des autres et on se dit « Ah oui, il y a beaucoup de niveaux. » Donc, on s'éclate. On passe et on monte sur scène et puis on donne tout.
Alors, en quelques minutes aussi, on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est terrible. Julie Caillet, par exemple, en quoi est-ce qu'il est utile pour votre future carrière, d'après vous, de participer à un concours comme celui-là ?
Déjà, ne serait-ce que pour toute l'expérience qu'on acquiert, les techniques de communication qu'on apprend à vulgariser, à parler dans un micro, à juste à savoir s'exprimer, parce qu'on sera toutes amenées à s'exprimer plus tard, même dans la vie en général, donc rien que pour ça, et puis même savoir vulgariser, c'est sympathique.
Alors, Julie Basse, dernière question pour vous. Est-ce que vous, c'est une démarche de vulgarisation, on l'a dit, en quoi est-ce que c'est important pour vous que la science puisse sortir des laboratoires ?
Je pense que c'est important, surtout dans le contexte actuel où tout le monde est devenu un petit peu spécialiste, scientifique, voilà, le Covid, etc. Donc il y a plein de bêtises qui sont dites malheureusement sur Internet. Et je pense que la population en général s'imagine pas du tout comment ça se passe dans un labo, ce qu'on fait réellement, pourquoi on travaille. Il y a beaucoup d'a priori. Donc oui, c'est essentiel, je pense, de vulgariser.
On vous remercie beaucoup toutes les trois, c'est passé très vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais. On vous souhaite une très 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 bonne chance pour vos soutenances respectives et on vous recevra prochainement pour vos publications de thèse alors, c'est ça ?
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis perdue aujourd'hui. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier et Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.